My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas. Des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I'll show you.
Salut à tous et salut à toutes. Alors c'est le printemps, c'est le temps de l'éclosion de la vie et du coup j'ai bien envie de vous parler de naissance. Alors au mois de mai, c'était la semaine mondiale de l'accouchement respecté qui a lieu chaque année. Cette année la thématique c'était 40 semaines et alors à chaque naissance sa cadence. Alors vous pouvez sentir à quel point ça remet en question hein, pour toutes les femmes qui sont passées par là. Ce fameux délai, que le terme de la grossesse, comme il est appelé, hein, à partir du moment où on fait les premières consultations quand on est enceinte, on nous dit déjà, bah voilà, l'accouchement est prévu pour telle date, d'accord, une date est posée. Alors est-ce que la vie rentre vraiment dans une telle prévisibilité? Ça, c'est toute la question. En tout cas, lors de la semaine mondiale de l'accouchement respecté, on sentait poindre une petite rébellion contre cet encadrement strict de la grossesse. Cette rébellion, elle fait partie d'un processus où on voit vraiment le féminin se guérir de la domination qu'il a subie durant des siècles. Et depuis le grand mouvement de libération des années 70, les femmes se réapproprient enfin leur corps, leur liberté, leur sexualité. Et de plus en plus de femmes souhaitent se réapproprier également le pouvoir de donner la vie en décidant des conditions de leur accouchement et en s'offrant l'accompagnement qui leur convient durant la gestation et après. Alors toutes sortes d'accompagnements fleurissent aujourd'hui, du chant périnatal à l'aptonomie, en passant par l'hypnonaissance et le recours aux doulas. Et pour informer les futurs parents de ces ressources merveilleuses, des cafés naissance voient le jour. À Uzès, ces rencontres ont lieu au café des Petites Mains et sont organisées par le réseau Naissance et l'association Nouvelle Terre. Marie-Lise, Virginie et Marielle sont les trois organisatrices du Café Naissance qui vient de naître justement sur Uzès. Alors Marie-Lise, elle est professeure de yoga et yoga doula. Ça sera intéressant de revenir, Marie-Lise, sur ce que c'est qu'une doula. Virginie est sophrologue et Marielle, puéricultrice en PMI. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'inaugurer le premier Café Naissance à Uzès. Ça s'est bien passé ?
Ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de professionnels, la discussion était vraiment très intéressante. Pour l'instant, peu de mamans, mais celles qui étaient présentes étaient vraiment très très heureuses de cette initiative et se sont inscrites pour les prochaines rencontres.
Alors le Café Naissance, de quoi s'agit-il ?
Le Café Naissance, c'est l'idée de se rencontrer autour de cette thématique qui est la naissance, entre professionnels de la naissance respectée et parents. Futurs parents, pour discuter de tout ce qui peut aller avec une naissance en douceur, calme. Comment est-ce qu'on peut célébrer, quels sont les outils auxquels on peut avoir accès de manière très simple pour célébrer l'arrivée de cet enfant dans notre vie.
Alors, il y avait beaucoup de professionnels, vous disiez, aujourd'hui. Donc, en fait, il y a plein de professions qui, de façon transversale, viennent toucher à ce moment crucial de la mise au monde, c'est ça ?
Oui, il y a beaucoup. Donc, il y avait une sage-femme, il y avait... Donc, moi qui suis doula, c'est accompagnante à la naissance, accompagnante non médicalisée, donc complètement complémentaire de la sage-femme. Il y avait donc Virginie qui fait de l'hypnonaissance, Marielle qui est puéricultrice, et qui fait aussi des massages pour bébé, parce que ce qu'a fait naissance, c'est pour la femme enceinte, mais aussi pour les parents qui viennent d'avoir des bébés, donc aussi pour les mamans avec leurs bébés. Il y avait aussi Sandy qui fait du BMC, Body Mind Centering, c'est l'étude du mouvement. Il y avait Hélène qui fait la méthode L'Oxy.
Alors ce sont plein de nouveaux outils, de nouvelles techniques qui apparaissent aussi. Hein. Là, tout ce que vous m'avez cité, c'est pas forcément très très connu.
C'est pas connu, mais en fait ça existe depuis longtemps. C'est justement le but du Café Naissance, c'est de faire connaître tous ces outils. Voilà, tous ces accompagnements dont on parle pas quand on va voir un gynécologue ou quand on va à l'hôpital. Et pour moi, donc, le but du Café Naissance, c'est d'offrir aux parents, aux futurs parents, la connaissance de tout ce qui existe comme accompagnement autour de la naissance.
Marielle, qui est puéricultrice en PMI.
Oui, donc la connaissance de tout ce qui existe et aussi de permettre aux parents de choisir ce qui est bon pour eux.
Tout à fait.
À quoi vous assistez, vous, les gens que vous rencontrez, par exemple, en PMI? Est-ce qu'ils sont informés de ces choses-là?
Pas toujours.
Ouais.
Parfois, oui, mais pas toujours, effectivement. Là, c'est pour ça que c'est important d'avoir des lieux comme ça, des lieux ressources où les parents peuvent se saisir de ce qui peut les intéresser personnellement.
Mm-hmm. Alors,
pour les aider dans leur chemin de parents.
Mm-hmm. Qui n'est pas facile. Qui est un grand chemin. Pour diffuser justement mieux toutes ces informations-là, vous avez créé un partenariat avec la librairie du ZES, me disait Virginie.
Oui, c'est un partenariat qui s'est fait de lui-même avec la librairie Soi UZES, où elle nous a procuré les livres et documents dont on avait besoin. Après, il y a un partenariat aussi avec l'association Les Petites Mains qui nous accueille. De toute façon, ce Café Naissance, c'est vraiment l'idée d'un partenariat, justement, entre les différents intervenants, entre les intervenants et les parents, et entre les lieux qui peuvent accueillir ce genre d'événement.
Alors, c'est assez étonnant de voir qu'à Alès, il y a aussi un Café Naissance qui s'est créé à peu près sur le même fonctionnement, hein, qui réunit aussi bien les professionnels que les parents, etc. C'est Sylvie Morganti qui a mis ça en place sur Alès. Marie-Lise, vous l'avez contactée, c'était juste une coïncidence?
Alors, juste au moment où j'ai eu envie de mettre ces Café Naissance en route, eh bien, voilà, j'ai su que Sylvie Morganti faisait exactement la même chose à Alès. Alors, je suis allée à ces Café Naissance. Et ça s'est tout de suite bien passé, on a beaucoup discuté et on est vraiment sur les mêmes objectifs. Donc voilà, de faire ensemble. Il y a vraiment cette idée de faire connaître tout ce qu'il y a autour de la naissance, autre que hypermédicalisé de ce qu'on connaît. Donc Sylvie, elle a aussi un partenariat avec les sages-femmes qui font les accouchements à domicile. Voilà, dire que ça existe aussi.
Et alors, de voir ces Cafés Naissance qui émergent, donc non seulement ici dans le Gard, mais j'imagine un petit peu partout aussi en France, ça correspond vraiment à un besoin, à une demande aujourd'hui de se réapproprier ce moment crucial pour les femmes, de la mise au monde de leurs enfants.
Oui, tout à fait. Il y a une réelle demande de parents de se réapproprier la scène de naissance, que ce soit des naissances à la maison ou bien des naissances en maternité d'ailleurs. Il va y avoir aussi des collaborations entre certains intervenants des scènes de maternité et puis les parents. On assiste vraiment à une réelle évolution de l'accompagnement à la naissance. Voilà.
La femme se réautonomise par rapport à ça, elle peut choisir les outils qui lui conviennent le mieux et puis choisir de qui elle a envie de s'entourer, professionnel du monde médical ou pas.
Voilà. De quelle ambiance aussi elle a envie de mettre au moment de la naissance. Puis pas seulement les mamans, les papas aussi.
Ah oui, c'est important de préciser, c'est pas seulement un projet de maman, faire un bébé, ça se fait à deux.
Couple, ouais. Et ça, c'est bien de le souligner parce que de rappeler aussi que les pères ont complètement leur place sur la scène de la naissance et que s'ils ne la connaissent pas, elle peut aussi s'apprivoiser, elle peut s'apprendre. C'est vraiment, ça se joue peut-être pas dans une action, mais dans une qualité de présence qui est de toute importance pour l'arrivée du bébé.
Quel est le message que vous aimeriez faire passer, faire circuler aujourd'hui dans la société par rapport à la question de la naissance? Est-ce qu'il y a un ou quelques messages qui vraiment sortent très fort?
Alors, il y a Michel Audon qui en parle très très bien de ce problème de la naissance hyper médicalisée, parce qu'il dit qu'on est en train de transformer l'être humain carrément à travers ces naissances hyper médicalisées. Donc c'est énormément de césariennes aujourd'hui en milieu hospitalier, la péridurale quasi obligatoire. Hein. Très, très peu de femmes peuvent décider finalement de ne pas la prendre. On ne leur donne pas vraiment le choix.
Hein, ou disons, on leur donne le choix, mais c'est tellement tentant. Ouais, enfin, exactement. Quand on a mal et qu'on nous dit « Tenez, j'ai la pilule exactement. Miracle qui va exactement. Vous soulager », comment résister à cette tentation ? Surtout que souvent, c'est la première fois, on ne sait pas si c'est normal d'avoir si mal. Donc voilà, on est tenté.
Exactement, c'est exactement ça. Et donc, voilà, ce qui est important aujourd'hui, ben, c'est de quelle manière on va mettre au monde nos enfants. Parce que ça va être la société de demain. Hein. Les enfants, comment ils vont venir au monde, ça va... Dans cet instant de la naissance, donc moi j'enseigne le yoga, et ça donc dans la tradition yogique, on le sait très bien que le moment de la grossesse et la naissance, c'est 90% de ce que va être l'être humain dans tout le déroulé de sa vie. Donc il y a vraiment un enjeu très très important au niveau de la naissance.
J'ai une question bonus, le rapport à la douleur, est-ce que vous invitez à revoir ça Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer là-dessus ?
Oui, complètement. Bien sûr, le rapport à la douleur, ça se revisite dans l'accompagnement avant l'accouchement. Parce que la douleur, elle est aussi une question, elle est aussi liée à une tension du corps. Plus le corps est tendu, plus la douleur va être grande. Le corps des femmes est en quelque sorte fait pour donner naissance. Et qu'est-ce qui peut entraver le processus physiologique normal de la naissance pour aller dans des douleurs ou parfois des utérus qui ne s'ouvrent pas. On est donc dans des situations physiologiques qui ne sont pas normales. Et là, il y a tout un travail de relâchement des tensions parce que qu'est-ce qui va tendre le corps ? Eh bien, le stress, les peurs. Donc si on fait tout ce travail sur les peurs, le stress, et que le corps est habitué à être détendu, on va accompagner l'ouverture de l'utérus dans sa physiologie normale.
Et alors, est-ce que l'invitation à des naissances plus naturelles et plus physiologiques, sans péridurale, est-ce que ça réinterroge le rapport à la douleur ? Parce que dans notre société, on a du mal à supporter la douleur. Ben, la moindre douleur, on veut un remède, un médicament, quelque chose qui va nous aider à la surmonter. Est-ce que voilà, se réapproprier l'accouchement, c'est aussi apprendre à faire face à cette douleur qui aurait donc un sens ?
Ouais. Alors il y a vraiment cette idée aussi, effectivement, de traverser l'accouchement. L'accouchement, c'est peut-être aussi un chemin initiatique. Et donc peut-être que pour certaines femmes, la douleur en fait partie. Et de savoir qu'on a tout en nous pour traverser ce chemin-là vers la naissance de notre enfant, c'est vraiment un chemin initiatique.
Je te sens émue, Virginie, quand tu dis ça.
Oui, c'est vrai, ça me ramène tout de suite à la naissance de mes filles. Et c'est vrai que pour moi, ça a été des temps de très grande ouverture à qui je suis. Donc je remercie beaucoup d'avoir pu traverser ça sans anesthésiant. Parce que peut-être dans cet endroit-là, j'aurais anesthésié une part de moi que je n'aurais pas pu rencontrer.
Et qui n'était pas si facile à rencontrer.
Elle n'était pas non plus si difficile, mais elle a demandé du courage. Voilà, c'est vraiment le courage de traverser cet événement qui est la naissance et qui est vraiment aussi quelque chose de sacré. Et de redonner cette dimension sacrée à la scène de naissance.
Yeah.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde et c'était ma tendre amie Nina Vital avec Surrender, une chanson dédiée à l'enfant qu'elle portait alors, Eloham, et qu'elle a choisi de mettre au monde dans son foyer, comme Morgane et Olivier que nous allons rencontrer. Morgane et Olivier, vous avez fait le choix de donner naissance à votre fille, que je viens de voir, Max, 5 mois, de lui donner naissance à la maison. Pourquoi ce choix ?
Alors pour moi c'était un choix tout vu, j'ai accouché ma première donc il y a 6 ans à la maison aussi. Je n'aime pas les hôpitaux donc c'était compliqué pour moi d'aller à l'hôpital. Donc j'ai fait le choix d'accoucher à la maison pour tous les avantages qu'il y a dans une maison.
Et oui, ben, l'hôpital n'était pas un endroit où tu te sentais particulièrement en sécurité pour donner naissance à ton enfant.
Non. Puis être trop médicalisé, trop de monde autour, les néons dans la figure... je préférais être dans mon cocon chez moi avec le papa et une sage-femme, être vraiment tranquille et faire ça à mon rythme, comme mon corps le sentait.
Et Olivier, ça t'a pas posé de soucis le choix de Morgane ?
Non, ben c'est un choix qui lui appartient parce que bon, c'est quand même elle qui accouche. Et puis j'avais aucune frayeur là-dessus, pas de peur, j'ai pas eu de soucis. Non, c'était surtout un choix pour elle, donc. Puis bon, au bout du compte, en plus, c'était vraiment super, donc c'était génial.
Qu'est-ce qui était génial ?
Bah, de se retrouver avec son enfant tout de suite après sa naissance, dans les bras. Moi, j'étais dans mon lit pendant que les sages-femmes s'occupaient de Morgane. Ça a duré 1h30, 2h, donc j'ai pu rester 2 heures complètement seul avec elle. Et puis 2 heures après, il n'y a surtout plus personne. On se retrouvait tous les trois dans notre lit tranquillement. Et ça, c'est vraiment, par rapport à l'expérience de beaucoup de papas que j'ai connus qui ont passé des heures dans des couloirs, c'est super.
Ouais. Et quels sont pour vous les avantages, Morgane, de l'accouchement à domicile ? Alors, donc se retrouver chez soi, être dans sa bulle, quoi d'autre ?
Alors déjà, il n'y a pas de valise à préparer pour partir à l'hôpital. Donc on le prend beaucoup plus cool. L'avantage, c'est que moi, j'ai toute la nature autour, donc j'ai pu aller marcher, prendre le temps. On est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. On sait que la sage-femme va arriver, on sait que le papa est là. En plus, bon, pour le deuxième, c'était encore plus tranquille. Et puis le fait d'être ensemble après, au bout de 2 heures, sans plus personne, se lever le matin chez soi, se retrouver dans son salon, tranquillement, manger ce qu'on a envie de manger, de pouvoir se mouvoir, prendre sa douche, tout ça dans son cocon. Et que ce soit pour l'enfant, pour nous, pour le papa et pour la grande sœur, c'était magique. On était vraiment chez nous.
Donc la grande sœur a pu assister à l'accouchement ?
Alors la grande sœur avait le choix d'assister ou non à l'accouchement. Quand les contractions sont devenues assez intenses, elle a préféré partir chez sa grand-mère. Mais elle était là le lendemain à 8h du matin, avant d'aller à l'école. Donc elle a sauté sur le lit, elle a fait un gros bisou à sa sœur. Et elle est revenue le soir à 4h30 à la maison, toute contente.
D'avoir une nouvelle petite sœur.
Voilà, et elle a participé. Vu qu'on était à la maison, ça a permis de solidifier ce cocon. Et elle ne s'est pas sentie à l'écart là-dessus.
Comment vous aviez eu l'idée d'accoucher à domicile plutôt Morgane, du coup, puisque ça vient de toi, ce choix.
Pour moi, ça a été... C'est venu tout seul. Donc j'avais 24 ans pour ma première. Je me voyais pas du tout aller à l'hôpital, ni faire les cours d'accouchement. C'était pour qu'on parle de péridurale. Je voulais pas en entendre parler. Le père de ma première est né aussi à la maison. Donc ses frères et sœurs aussi. Donc c'était un choix qui est. Le papa était OK là-dessus.
Du papa, c'était quelque chose de courant.
Voilà, c'était très content même de pouvoir faire ça. Et les grands-parents étaient très contents aussi que donc ma grande...
C'est rare des familles entières comme ça dans cette époque, on va dire cette génération de nos parents qui ont accouché à la maison. Il y a déjà des familles qui étaient un peu en avance là-dessus.
Voilà.
Et du côté de ta famille à toi, comment ce choix a-t-il été perçu ?
Au début, avec un peu d'appréhension de certains. De la part de ma grand-mère, c'était même encore pour la dernière, c'était « tu es inconsciente ». Mais à côté de ça, elle a respecté le choix. Ma mère, elle l'a très bien respecté, même si pour la première, elle a eu un petit peu peur. Mais en fin de compte, ça a coulé, elle m'a laissée libre. Par contre, c'était autour des amis qui ça a été un peu difficile.
Ah oui?
Oh, j'ai eu un peu des « tu es folle, tu vas aller accoucher dans la nature, tu vas… » voilà. Donc après, l'accouchement à domicile n'est pas forcément reconnu. Donc il faut pouvoir expliquer qu'on est quand même avec une sage-femme, qu'il y a l'hôpital à côté, que tous les suivis sont faits, donc il n'y a rien à craindre. Hein.
C'est pas un accouchement sauvage dans
non,
la forêt,
voilà,
rien à
voir. S'il y a besoin d'un transfert, le transfert aura lieu à l'hôpital, voire même plus rapidement que ce qu'ils font à l'hôpital s'il y a besoin d'une césarienne. Des fois, ils font patienter plus longtemps à l'hôpital que les sages-femmes. S'il y a le moindre risque à domicile, on va directement à l'hôpital, donc ça va être très très rapide.
Voilà, alors évidemment, donc, dans chaque histoire d'accouchement à domicile, il y a une sage-femme donc, qui suit la grossesse, qui valide, qui dit « ok, oui ou non, vous êtes apte à accoucher à la maison ». Et de toute façon, il y a un rendez-vous qui est pris à l'hôpital pour transmettre le dossier de la femme qui va accoucher et prévoir un transfert en cas de besoin.
C'est ça.
Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les accouchements à domicile ne sont validés que dans un périmètre de moins de 20 minutes d'un hôpital.
C'est ça.
Voilà. Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes allé à l'hôpital justement pour ce rendez-vous, pour leur donner votre dossier et leur dire voilà, on prévoit un accouchement à domicile et on vient vous rencontrer pour un transfert au cas où.
Alors moi j'étais suivie par une gynécologue à l'hôpital.
Mmh.
La gynécologue, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Non. Il n'y a pas eu de réaction. Donc, il a fallu.
Elle l'a même oublié, d'ailleurs.
Oui, elle l'avait oublié, même.
Elle a fallu. Au rendez-vous, elle dit, ah, mais vous accouchez à domicile. On dit, oui, on vous l'avait dit. Je ne l'ai pas noté. Enfin, vraiment, c'est vrai que non, la première, pas de souci.
D'accord.
Après, donc, j'ai quand même fait un protocole de naissance, pour expliquer que c'était un accouchement à domicile. Là où j'ai eu rencontré un peu plus de difficultés, c'est que donc ma petite est arrivée après terme, donc j'ai dû faire les monitorings de contrôle à l'hôpital. Donc ça, c'était vu avec ma sage-femme et ma sage-femme avec l'hôpital. Les premiers monitorings, ça a été. Mais au bout de plusieurs jours de retard, il y a une sage-femme qui n'était pas très très contente de cet accouchement à domicile, mais pas de jugement par contre. C'était.
Elles se sont un peu inquiétées pour vous, on va dire.
Voilà,
à
c'était
l'hôpital.
Plus c'est nous quand même qui prenons la décision si on doit vous déclencher ou pas. La gynécologue qui est venue me voir, elle m'aurait déclenchée. Mais j'ai refusé en disant que tout allait bien, donc il n'y avait pas de raison de déclencher. Et en fait, ma petite est née vraiment la veille du jour où elle, du dernier délai qu'elle m'avait donné pour le déclenchement. Donc, ouf.
Et du coup, elle est née à combien de temps après le fameux terme
Jour plus 5. 5 jours après.
5 jours après le terme après. Défini, ouais. Voilà. Bon, sachant que la vie ne rentre pas forcément dans des cases.
Non, puis tout allait bien, elle bougeait bien et on était déjà en train de voir comment on pourrait négocier, de reculer encore le déclenchement
d'un jour.
Tout allait bien, il n'y avait pas de raison.
D'accord.
De déclencher.
Très bien. Donc finalement, contact avec l'hôpital plutôt positif. Ils vous ont même assisté. Ils ont pu faire tous les monitorings, etc.
Oui.
Durant ce temps de retard, on va dire.
Ça a été un petit peu froid, mais après, à côté de ça, ils m'ont pas pris la tête sur le fait que c'était un accouchement à domicile.
Ok.
Donc voilà, ça va.
Mmh, super. Et est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la sage-femme pendant toute votre grossesse et puis pendant l'accouchement, puisque bien sûr, elle était présente. Comment ça s'est passé pour vous deux qu'est-ce que vous en avez pensé de son rôle?
Alors, c'est beaucoup moi qui suis allée voir la sage-femme.
Mm-hmm.
Et vers la fin, la sage-femme est venue à la maison. Mais sinon, elle m'a suivie tout le long. C'était elle qui me faisait le monitoring, qui contrôlait tout. Donc voilà. Et après, on faisait le travail aussi de savoir s'il n'y avait pas des blocages plus quand la petite ne voulait pas sortir. Savoir si c'était faire ce travail-là. Savoir si c'était moi, pas moi. Il fallait peut-être laisser le corps aller pour pour qu'elle sorte.
Et là, ça a bien aidé, les conseils de la sage-femme.
Voilà, bah oui, oui, et puis ils sont rassurants aussi, hein, voilà, tout va bien, il n'y a pas de soucis, enfin, tout ça, c'est rassurant, on a besoin. Hein. Donc, j'ai une des sages-femmes qui m'avait aussi conseillé de prendre un peu d'huile de ricin donc après le terme, hein, pour aider au déclenchement. Donc,
sachant que ça, c'est une pratique controversée, comme tu me disais tout à l'heure,
qu'il y a des sages-femmes. Il y en a qui sont contre. Donc, en sachant que ça peut provoquer des grosses coliques, surtout si on le prend avant terme. Bon, là, je l'ai pris après terme, donc ça m'a une petite cuillère et ça m'a 2-3 heures après, j'avais le travail qui commençait. Donc, ça m'a bien aidé.
Ça a été le remède miracle pour faire venir Max.
Voilà, voilà. Alors, peut-être ça m'a débloqué un truc psychologiquement, je sais pas, mais bon, ça a bien aidé. Et sinon, pour l'accouchement, je leur ai téléphoné vraiment quand je le sentais. Donc vraiment, c'était vraiment au dernier moment. Donc la première sage-femme est arrivée, 1 heure après Max naissait. Et la deuxième est arrivée, Max était en train de sortir.
Vous aviez 2 sages-femmes le jour de votre accouchement ?
Ouais, elles fonctionnent à 2 ici dans le Gard. Gard et Cévennes, elles sont à 2.
Mais les 2 étaient chez vous pour l'accouchement ?
Voilà, okay. Et en fait, il y en a une qui nous suit et lors de l'accouchement, elles viennent à 2.
D'accord.
Pour plus de sécurité.
Donc tout s'est bien passé.
Ouais, nickel, ouais. Super.
Si c'était à refaire,
on referait. Voir son enfant naître en plus, être vraiment à côté, non, c'est pouvoir le toucher juste après, non, c'est très très bien, très bonne expérience.
Voilà, donc elle est née dans la baignoire.
Super. Et si vous aviez un petit conseil à donner aux femmes qui souhaitent vivre cette expérience, mais peut-être que c'est pour la première fois ou quoi.
Alors surtout de se faire confiance et faire confiance en leur corps. Dire que c'est vraiment très naturel et de ne pas avoir peur, vraiment de se faire confiance. Et de faire confiance au bébé. Parce que lui, il sait comment faire. Et il guide.
Merci beaucoup.
De rien.
Yes. Bajo el cielo amarillo, al pie de la soledad, me acuesto con miedo y despierto sin sombra, una espina en la mano y lágrimas en la otra. Al borde de la infancia, sobre el hilo del tiempo, me asomo con calma y sombreo sin pasmo. 3 besos en la mano y fábulas, fábulas en la otra. Eso, vamos. A duele, duele, duele.
Aunque te duela, no tenga pena, corazón.
Aunque te duela, otra vez. A duele, duele, duele.
Aunque te duela, no tenga pena, corazón.
No tenga pena, no tenga pena, aunque te duela. Caminando la vida, juntito a la suerte, voy con mi fe, mi canto, ando rumbo a la muerte. Una estrella en la mano, chinitas en la otra. Eso, señora, vamos. De cara a la mentira, la verdad es un duelo, quien engaña no gana y no haya consuelo. Un espejo en la mano y máscara, máscara en la otra. A duele, duele, duele.
Aunque te duela, no tenga pena, corazón.
Aunque te duela, otra vez. A duele, duele, duele.
Aunque te duela, no tenga pena, corazón.
Aunque te duela, aunque te duela, aunque te duela. Eso, vamos con la trompeta.
Aunque
C'était Marianne Aya Omak dans Les Enfants du Nouveau Monde, où nous parlons aujourd'hui de naissance respectée. Et quel meilleur endroit que notre foyer chaleureux pour donner naissance à nos enfants. Et pour que l'accouchement à domicile puisse se faire en toute sécurité, c'est le suivi et l'accompagnement professionnel de la sage-femme qui est la clé de voûte de ce moment extraordinaire. Pourtant, malgré une augmentation de la demande d'accouchement à domicile, les sages-femmes restent peu nombreuses à le pratiquer. La raison, une situation précaire et mal reconnue.
Je suis avec Françoise Servant, qui est sage-femme, qui pratique l'accouchement à domicile, l'AAD, depuis environ une trentaine d'années. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors, donc aujourd'hui, la situation des sages-femmes, elle est très compliquée. La situation des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, on est d'accord. Il y a une faible rémunération pour votre travail. Il y a des difficultés d'accès à une assurance. On vous demande une assurance, mais en même temps, elle coûte tellement cher et par rapport à vos rémunérations, elle est complètement inaccessible. Donc, ça vous oblige à travailler en porte-à-faux, soit vous passez d'assurance, mais du coup, d'être vraiment sans filet ou alors de devoir facturer vos accouchements avec des dépassements incroyables. Donc, ça devient accessible qu'à des gens vraiment qui ont de très gros moyens, ce qui n'est pas votre éthique.
Non.
En plus de ça, vous subissez des poursuites disciplinaires pour le moindre petite chose. On vous menace d'être radié par l'ordre des sages-femmes, l'ordre des médecins, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a seulement une soixantaine de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile en France. Donc ça ne couvre pas du tout le territoire.
Ah non, loin de là.
Bon, nous, on a de la chance. Dans le Gard, on est un petit peu mieux fournis. Vous êtes deux à travailler depuis longtemps du côté de Montpellier. Là, il y en a deux nouvelles qui viennent d'arriver aussi et qui ont le courage de se lancer, parce que c'est vraiment du courage là qu'il faut. Hein.
Tout à fait, super. Moi, j'applaudis ça.
Et pourtant, l'accouchement à domicile, il est totalement légal en France. Et même, il aurait de nombreux intérêts à être vraiment valorisé, comme il l'est au Royaume-Uni, par exemple, où on recommande d'accoucher à la maison. En Hollande, je crois que c'est quasiment la moitié des accouchements qui se passent à la maison. C'est l'accouchement à la maison, ça relève du droit au respect de la vie privée et familiale. C'est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, justement, votre métier soit si mal vu?
Oui, c'est mal vu parce qu'en fait, c'est mal connu. Mm-hmm. C'est mal connu et on en reste surtout qu'on fait des accouchements à domicile un peu comme on le faisait il y a 50 ans ou 80 ans. Où, bon, on acceptait à l'époque un peu plus de fatalité, je suppose, mais parce que il y a aussi qu'on n'avait pas les examens, les échographies très très pointues qu'on a aujourd'hui, et puis tous les repérages pour les futures pathologies qui pourraient se déclencher, que ça soit pour la mère et pour l'enfant. Voilà, donc au contraire, nous on bénit ce progrès de la médecine qui nous permet d'avoir levé tous ces inconnus et de faire un accouchement dans de bonnes conditions. On a aussi quand même du matériel qui est portable. Maintenant, on a ce qu'il faut pour arrêter une hémorragie, pour détecter avant l'accouchement s'il y a des problèmes de coagulation. Donc c'est vrai que on a tout ça, on a le matériel et les gens sont restés un peu, enfin les gens du côté médical et pas que médical, mais pas tous non plus, puisqu'on a quand même, moi j'ai dû accoucher des dizaines de femmes médecins, dont le mari est médecin à domicile, et que c'était vraiment leur choix, hein, ça, y a pas de problème. Mais ça, à la différence des autres, c'était une personne qui s'était renseignée. Donc voilà, c'est tout à fait légal, une femme a le droit d'accoucher à domicile, mais nous, le problème, c'est que pour cet acte-là, notre responsabilité civile ne nous couvre pas. Alors comme elle ne nous couvre pas, ben oui, on est en porte-à-faux, là, on est à la fois à cheval sur la légalité et puis l'illégalité, donc on a choisi de continuer, parce que ça, c'est quand même pas, moi je fais ça depuis 30 ans, et ça fait qu'une quinzaine d'années qu'on a ce problème. Ben, quand on est lancé. Je comprends les jeunes qui ne veulent pas s'installer. Entre la rémunération qui ne couvrerait pas la cotisation d'une assurance, hein, et puis la disponibilité et cette épée de Damoclès au-dessus, on comprend. Bon, moi, je continue parce que c'est comme ça. Et c'est parce que aussi, on peut entendre certaines familles qui sont prêtes à rester tout seules pour ne pas aller dans un centre où on médicaliserait alors qu'ils estiment que c'est pas que ça, ils en ont pas besoin.
Aujourd'hui, vraiment, le créneau, c'est de dire la médicalisation, elle a un sens, mais pour les grossesses qui en ont besoin. Or, c'est pas du tout la majorité. Voilà.
Donc, aujourd'hui, une femme diabétique peut envisager d'avoir et de faire une famille sans prendre des risques pour sa propre vie. Voilà, alors qu'avant, ben, c'était très très risqué. Donc c'est bien, la médecine pour ça est super. Voilà, quand elle est nécessaire, d'accord, mais le problème, c'est que, bon, il y a des protocoles maintenant. Les protocoles, pourquoi ? Parce qu'on n'a plus que certaines grandes unités et que dans les grandes unités, ben déjà dans les services, les sages-femmes ne sont pas suffisamment nombreuses pour assumer et pour suivre des fois 10 femmes à la fois. C'est ce qui se passe très souvent. Hein,
Ouais, c'est des usines
donc,
à bébés.
Ben, à quelque part, la machine a remplacé l'homme aussi, hein, a remplacé la sage-femme. On met un monito parce que la sage-femme ne peut pas rester à côté. Elle aimerait bien, je suppose, mais elle peut pas. Et puis, bon, on a des façons de faire qui remettent en question la façon de faire des protocoles et tout ça. Donc, on est mal vu un peu à cause de ça aussi.
Oui, c'est plus incontrôlable. Il y a un côté plus...
On est des électrons libres. Et alors ça ne plaît pas hein, dans le système français quand même. Il faut reconnaître que ça, les électrons libres ne sont jamais très...
Alors, c'est vrai que la question essentielle, c'est vraiment l'information, hein, parce que du coup, ça manque vraiment d'informations sur ce sujet, sur l'offre vraiment hyper professionnelle et hyper sécure que vous apportez pour l'assistance
de l'accouchement. Je rappelle quand même qu'il y a des périmètres dans lesquels on peut faire un accouchement à domicile, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à 2 heures d'un hôpital.
C'est toujours dans un périmètre...
Le plan B est déjà prévu et mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des anesthésies... Et consultations sont faites au 8e mois dans le lieu où on irait pour qu'elles soient connues. Et c'est vrai que quand on établit quand même un pont comme ça avec une maternité, qu'on va se présenter, qu'on explique pourquoi, ça commence en tout cas à porter ses fruits. C'est-à-dire que ça fait vraiment... On travaille quand même un peu en équipe.
On
a des transferts qui aujourd'hui se passent bien dans certains endroits, pas partout. Pas partout, mais ça, on sent qu'il y a quand même du progrès là-dessus.
C'est génial.
Maintenant, quand il y a vraiment un mur entre les structures... Et ben nous, les électrons libres, alors ça se passe pas bien.
Je comprends. Voilà. Aujourd'hui, on assiste quand même à une demande croissante des accouchements à domicile en France.
Oui, ça a été un escalier, je dois dire. Il y a quelques années, ça avait énormément augmenté, puis ça s'est stabilisé, puis encore, et puis là, depuis 2-3 ans, on a une demande énorme. Donc... Parce que je pense que l'information, elle passe. Et qu'on est dans un pays un peu carrefour, où on a des familles qui arrivent d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre, de tous les pays où elles sont fort étonnées des façons de faire en France pour les accouchements. Donc elles se retournent vers une autre façon de faire. Et c'est comme ça qu'elles rentrent en contact avec nous. Hein. On ne fait pas de publicité, mais de bouche à oreille.
Et du coup, vous n'arrivez pas à répondre à toutes les demandes, j'imagine.
Et malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Soit les femmes sont trop loin des hôpitaux, soit elles appellent trop tard. Comme je disais, ce n'est pas forcément qu'un suivi médical, hein, c'est une relation. Hein. C'est important, cette relation, qu'on puisse sentir un peu, si ses parents se sentent de prendre leurs responsabilités. Nous, on les connaît mieux ce jour-là. Ce jour-là, elles sont calmes. Enfin, disons qu'on n'est pas comme un intrus à côté. Des fois, à l'hôpital, c'est vrai que forcément, on a des têtes nouvelles et qu'on ne reverra jamais. Ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, voilà, il y a une relation à établir.
Tout à fait.
Et c'est vrai que quelqu'un qui appellerait un mois avant l'accouchement, on ne va pas pouvoir assumer.
Oui, bien sûr. Non, vous, ça nécessite vraiment, justement, pour ne pas prendre de risque, que vous ayez établi une relation vraiment de confiance avec la personne et que vous ayez eu le temps de sentir si la personne est vraiment stable, si vous sentez qu'elle a les capacités vraiment d'aller jusqu'au bout.
Nous, quelques heures après l'accouchement, on va partir. On va revenir tous les jours pendant une semaine. Mais on ne va pas être là ce soir hein, au moment de... Donc on voit si c'est des personnes fragiles qui ont 40 000 questions, très angoissées, qui répètent les mêmes, on va sentir que ça ne va pas le faire. Parce que quand même, il y a ce pli qui est pris d'être pris en charge en France. Tout devient médical maintenant. Donc, il y a quand même, heureusement, quelques-uns qui sentent que non, ils n'ont pas besoin du médical. C'est un moment de leur vie de famille, ça.
Tout à fait. L'accouchement n'est pas une maladie. Tout à fait. Ça peut se passer à la maison. Quand on regarde les chiffres, ça devient encore plus aberrant de voir que l'accouchement à la maison n'est pas plus développé. Un accouchement à l'hôpital, aujourd'hui, ça coûte environ 4 800 euros à la Sécurité sociale, alors que vous n'êtes payé en tout et pour tout qu'un forfait de 350 euros pour un accouchement, ce qui ne vous paye pas les heures que vous passez parfois avant, pendant tout le travail, voire après. Donc, bon, on voit que ça serait aussi une bonne manière de résorber des dépenses inutiles que d'inciter l'accouchement à la maison. Du coup, pourquoi est-ce que, à votre avis, il y a une volonté de contrôle des naissances par le biais de la médicalisation systématique ?
C'est une question, c'est comme dirait Laetitia qui a fait ce livre-là, l'accouchement est politique, hein, là il y a un peu pas mal de réponses dans ce livre.
D'accord.
Effectivement, c'est politique parce que quand on a voulu même aussi promouvoir les maisons de naissance en France, au début j'étais avec une autre sage-femme, puis de là deux autres se sont greffées. On a vraiment tout fait d'ailleurs, hein, avec notre temps et nos deniers, on a voulu ouvrir une maison de naissance derrière l'hôpital, c'est-à-dire que la sécurité est maximum et tout. Et malgré ce, on a eu que des barrages.
Hein, oui, ouais, d'accord. Donc il y a vraiment une volonté politique que les naissances se passent dans un cadre.
Ouais, de brandir cet argument que économique,
on
n'a eu aucun effet.
D'accord, ok. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, toutes les dépenses, c'est aussi des dépenses qui vont vers des lobbies de l'industrie pharmaceutique, toutes les dépenses qui sont faites dans le cadre de l'hôpital, hein, le matériel, les produits, etc. Oui. Ça fait tourner l'industrie pharmaceutique et donc il y a des intérêts de tous les côtés au niveau des lobbies
bien
et tout
sûr,
ça.
Bien sûr, on se retrouve un peu...
Donc, on a coincé, le bon sens à de quoi se perdre.
De pas avoir d'assurance, on s'est retourné vers le bureau des tarifications qui est chargé d'obliger les assurances à nous assurer, et puis à des prix raisonnables évidemment. Puis quand on voit la constitution des gens qui font partie du bureau des tarifications, ben ce sont aussi des lobbies pharmaceutiques et tout ça. Donc voilà, finalement voilà. On a demandé de l'aide, mais à nos pires ennemis ou... et on retombe là au point de départ.
Ok, bon, ben merci d'avoir fait le point là-dessus. On peut quand même dire que voilà, il y a beaucoup de sages-femmes qui subissent des poursuites disciplinaires pour le moindre faux pas, le moindre truc, qui sont menacées de radiation et que c'est très compliqué
radiées,
et qui sont radiées.
Tout
à fait, donc c'est très compliqué pour elles alors qu'elles n'ont rien de réel à se reprocher dans leur pratique.
On peut être justement convoqué et passé en chambre disciplinaire, non pas pour des choses qui sont arrivées, mais des choses qui... Il y a une situation qui faisait que ça pouvait arriver, ça a été mon cas. Hein.
C'est terrible.
D'une femme, bon, ok... Elle n'a pas eu d'hémorragie, mais elle aurait pu en avoir une. Donc, il y a un article du Code de déontologie qui dit qu'on ne doit pas mettre une femme en danger.
D'accord. Et au nom de cet article...
Ça rentrait dans ce critère-là.
Ah,
voilà.
Ouais, c'est terrible.
Bon, j'ai eu gain de cause.
Mais bon, c'est des années de bataille.
On n'a pas des procès pour ce qui arrive, mais pour ce qui pourrait arriver.
C'est terrible. C'est terrible.
C'est terrible, hein.
Ouais. Et donc, du coup, bah, j'imagine aussi que c'est dans ce sens-là que vous avez créé avec quatre autres sages-femmes le syndicat national des sages-femmes pour l'accouchement à domicile. Un syndicat qui n'a pas énormément de poids, comme on peut l'imaginer,
mais
puisque
non,
vous n'êtes pas
nombreuses.
Voilà, c'est ça.
Quand bien même on y adhérerait toutes, on n'est pas nombreuses.
Aujourd'hui, pour vous soutenir dans votre cause et puis pour peut-être juste simplement savoir où est-ce qu'il y a des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, comment les femmes peuvent faire?
Comment elles peuvent faire? Ben écoutez, bon, celles qui nous contactent, déjà, elles ont regardé un peu sur Internet, elles ont tapé accouchement à domicile, elles sont tombées sur des sites avec des doulas, des accompagnantes en périnatalité, des choses comme ça. Après, bon, non, c'est de bouche à oreille, de choses comme ça. Alors, pour aider, c'est vrai que les CDAAD, c'est-à-dire les collectifs de défense d'accouchement à domicile, il y en a un peu dans toutes les régions de France.
D'accord.
On fait du bon boulot, ça, il n'y a pas à tortiller. C'est vrai qu'ils font des rencontres, ils le font savoir. Il y a des sages-femmes qui sont inquiétées. Actuellement, il y en a une là qui attend un peu un verdict pour le 30 juin, hein, qui est à Tours.
Et donc, il y a des pétitions qui peuvent être signées sur...
fait souvent, c'est qu'il y a même déjà des pots communs, parce que le problème, c'est qu'on se retrouve avec
devoir
se défendre avec un avocat qui va nous coûter en deux jours ce que nous, on gagne en un mois. Alors, il y a des collectifs de parents. C'est les parents, on compte plus sur les parents que d'autres professionnels, puisque c'est un besoin des parents et qu'ils veulent garder cette liberté. Donc, voilà, ça se fait un peu comme ça, sur le tas, ou les CDAD qui se réunissent régulièrement.
Merci beaucoup, Françoise, de continuer à
répondre. Ou alors, vous, les journalistes, qui pourront tout savoir.
Ouais.
Merci.
Merci à toi, en tout cas, de continuer à répondre à ces besoins des parents et à leur offrir le choix, malgré les difficultés. Bonne continuation. Merci. Alors, pour accompagner les femmes dans ce passage crucial qui est la grossesse et l'accouchement, il n'y a pas que les sages-femmes, il y a aussi les doulas. On en entend parler depuis quelques années de plus en plus. Et je suis justement au téléphone avec Yaël Catherinet qui est doula. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est doula?
Les doulas, ce sont des accompagnantes à la naissance, non médicalisées, non thérapeutiques. C'est un accompagnement émotionnel.
D'accord.
Pour une femme, pour un couple, qui désire un autre accompagnement, un autre suivi, un autre espace autour de leur projet sur la naissance et puis aussi le jour de la naissance. Et puis après aussi, quand le bébé est là.
Et alors, comment il se caractérise cet accompagnement? Est-ce qu'il est plus présent? Comment ça se passe?
En fait, c'est une disponibilité, on va dire, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la femme ou le couple qu'une doula accompagne, quand il a besoin, il peut voilà, lui envoyer un SMS, lui écrire un mail. C'est vraiment une disponibilité tout le temps. Et puis après, il y a des rendez-vous où on se voit. Mmh. Et on discute, on aborde tout ce qu'ils ont besoin. On voit ensemble voilà, quelles ressources ils pourraient trouver. Et puis le jour de l'accouchement, selon la structure, selon s'ils accouchent à la maison, voilà, selon la place qu'on nous accorde, on est présente.
D'accord.
Et pareil, on essaye de se mettre là où on le sent, là où il y a une place, un besoin, sans intervenir sur quoi que ce soit. Et puis après, une fois que le bébé est né, la maman ou le couple, en fait, on est là aussi sur 2-3 mois, sur l'arrivée du bébé, s'il y a des frères et des sœurs, ça peut être aussi l'aider dans des tâches ménagères, ça peut être dans du soutien.
Ça vient un petit peu remplir le rôle que peut-être avaient les femmes plus expérimentées dans certaines cultures qui étaient là pour accompagner la jeune femme dans son premier ou ses premiers accouchements. Dans ton livre que tu viens de publier, Le féminin guérisseur, tu parles de l'enfantement et ce qui me touche beaucoup, c'est que tu le remets dans un contexte sacré, c'est-à-dire que dans de nombreuses cultures, l'expérience de la mise au monde, c'est une expérience initiatique pour la femme qui devient mère. Est-ce que tu peux nous parler de ce caractère sacré que tu as tout à fait saisi et que tu exprimes dans ton livre? C'est ce passage, notre société matérialiste a tendance à oublier ce côté sacré.
Alors en fait, je trouvais qu'on parlait beaucoup de voilà où c'est qu'on allait accoucher, comment ça allait se faire, mais je me suis dit, on oublie que finalement il y a un bébé qui va naître et que tout ce chemin... à la fois et de la grossesse et du bébé qui va naître, et après c'est un chemin où on accueille la vie quelle qu'il soit, et on oublie en fait qu'on accueille la vie et que tout ce chemin il va être initiatique, il va nous apprendre à la fois devenir parents, nous la femme on va accéder à la place de mère, et je trouve que c'est un moment fort de notre vie et il est assez unique, donc pour moi c'est important voilà, de le célébrer, de mettre de la conscience, d'y mettre du beau, ça peut sembler naïf, mais tu n'accouches pas tous les jours et tu vas le vivre une fois, deux fois, trois fois. Mais chacune, on peut témoigner que c'était un jour particulier.
Bien sûr. Nous étions toutes les deux à la conférence de Michel Audin où il parlait vraiment de quand le corps de la femme s'ouvre pour laisser passer l'enfant. Il y a quelque chose une alchimie très très particulière qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et en fait, un lâcher prise totale du cerveau.
Il parle du néocortex.
Voilà, du néocortex, du cerveau frontal, du cerveau qui réfléchit, qui analyse et tout ça, et qui donne les rênes au cerveau archaïque, le cerveau des réflexes primitifs, sauvages, etc. Et du coup, il incitait vraiment les femmes à oser aller dans leur part sauvage à ce moment-là de leur vie, lors d'un accouchement, et oser peut-être pousser les cris qu'elles ont envie de pousser, de prendre les positions qu'elles ont envie de prendre, etc. Et ça ressemble beaucoup à un phénomène de transe, ce qui est décrit là. Je peux en parler puisque j'ai aussi eu la chance d'accoucher à la maison, donc dans la façon dont je voulais. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre une transe. L'intensité des sensations sont telles que effectivement on lâche complètement prise. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre du sacré, c'est-à-dire qu'on côtoie la vie et la mort en même temps. Il y a la vie qui arrive et la mort qui est pas loin. Et du coup, ça demande d'aller puiser dans des ressources très, très profondes de l'être. Comment tu vois ça, toi?
En tout cas, la femme qui peut le vivre, elle s'offre un cadeau. Parce que voilà, là où tu vas accoucher, et après ton histoire, va faire qu'il y a des choses que tu vas pouvoir vivre, d'autres moins. Mais malgré tout, quand on accouche, comme tu le disais bien, en fait, on est plus dans ce cerveau qui réfléchit, on est dans un cerveau animal, du senti, du ressenti. Mm-hmm. Et il y a quelque chose qui nous échappe complètement, en fait. Mm-hmm. Et comme il l'explique bien, en fait, moins il y a d'injonctions, moins il y a de personnes qui parlent, plus la femme, elle peut retrouver cet état presque animal.
Oui.
Et voilà, quand j'ai pu accompagner des femmes qui ont accouché comme elles le souhaitaient, chez elles, voilà, et ben, c'est assez étonnant. On a l'impression qu'on a une petite chatte et qui va se mettre dans un endroit particulier et qui va s'abandonner corporellement dans ce qu'elle est, dans, ouais, dans toute sa puissance et en santé.
Et alors, Yaël, dans ton livre, tu parles aussi de quelque chose d'assez nouveau, dont on n'entendait pas parler avant. Hein. Peut-être aussi parce qu'il y avait une part de pudeur et de ne pas dévoiler ça. Et puis surtout, de ne pas remettre en question une antique croyance que la femme devra enfanter dans la douleur. Aujourd'hui, il y a des expériences d'accouchement orgasmique, c'est-à-dire un accouchement vraiment dans la jouissance et dans le plaisir.
La naissance, qu'on oublie, c'est que c'est un moment, ça rejoint la sexualité. Je pense que c'est ça qui est important de pas oublier, c'est que c'est un moment intime de la vie d'un couple, de la vie d'une femme.
Tout à fait.
Et il y a des femmes qui sont, comme on parlait tout à l'heure, dans ce lâcher-prise, qui vont pouvoir s'abandonner et ressentir cette jouissance ou cet orgasme. Et je pense que, on en a mis un tabou, en fait.
Et puis surtout, on nous a imposé, conditionné par cette croyance judéo-chrétienne que les femmes doivent absolument accoucher dans la douleur. Donc, voilà.
Alors peut-être que les femmes accouchent dans la douleur parce qu'elles sont dans des positions, des structures, où il y a des choses autour d'elles qui les stressent. Mais si on est dans la physiologie de l'accouchement et dans un cadre naturel, l'accouchement, la femme, elle va être à l'écoute de ses sensations et elle va pouvoir être s'ouvrir. Et voilà, ils ressentiront un orgasme ou du plaisir, ou comme on peut le ressentir dans l'allaitement, en fait.
Et oui, rappelez que tout ça, ça se vérifie scientifiquement, puisque ce sont les mêmes hormones qui sont à l'œuvre. C'est l'ocytocine qui est à l'œuvre lors d'un rapport sexuel, donc qui est libérée lors du rapport sexuel et de l'orgasme. C'est cette même hormone qui va être libérée au moment de l'accouchement pour ouvrir le col de l'utérus et laisser passer l'enfant. Donc voilà, ça se vérifie bien. Il s'agit bien des mêmes alchimies. Il s'agit bien d'une alchimie sexuelle qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et de plaisir.
Je pense que, il faut pouvoir être dans un cadre où on se sent en sécurité, qu'il n'y ait pas d'insécurité,
bien
qu'il n'y ait pas de voyeurisme.
Et puis d'intimité, c'est ça. Parce que qui a envie de faire l'amour au grand jour devant, devant tous des inconnus? Pas grand monde. Et oui, c'est sûr. Voilà, donc ça nous aide aussi à comprendre à quel point on a besoin de se réapproprier, les femmes, ce pouvoir de donner la vie et de choisir vraiment l'endroit où on se sent à l'aise pour le faire.
Ouais.
Donc la dimension sacrée de la naissance a l'air tellement importante pour toi, et d'ailleurs ça me touche beaucoup, parce que je pense qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver cette dimension sacrée, aussi bien de la naissance que de la mort d'ailleurs. Quels que soient les passages, pour moi ils ont besoin vraiment d'être à nouveau sacralisés, spiritualisés, où on a besoin d'y mettre vraiment du senti, de la conscience, du beau, de la prière, de l'amour, de la reliance, tout ça. Et alors donc, tu organises un festival qui s'appelle justement Naissance Sacrée. Ça va se passer le 25 et 26 novembre prochain dans le Luberon. Alors, de quoi s'agit-il ?
Là, ça va être un espace que je loue, en fait, où il y a à la fois un lieu de vie. Donc, il y a aussi la dimension de vivre ensemble.
D'accord.
Sur une rencontre. Et après, c'est un week-end où il y a différents intervenants avec différents ateliers. Bah, par exemple, ça va être une femme avec qui on va faire des aînés sur le ventre ou
des lignes.
D'accord. Du aîné.
Ah, du aîné, pardon. D'accord.
De chanter, de faire du yoga. Après, il y a des intervenants avec qui on va parler aussi autour de la sexualité, placenta. On va faire un grand mandala pour commencer. On va parler du blessing way aussi. Il y aura un cercle d'hommes de futurs papas. Il y aura un couple aussi pour travailler autour de la naissance, parce que c'est autant pour les femmes que pour les hommes.
Très bien. Super. Donc ça, c'est le 25 et le 26 novembre 2017. Ça se passe à Cadenet, dans le Luberon. Et pour avoir plus d'infos, on va sur ton site, Yaël.
Oui, c'est ça, c'est Yaël, lechampdesarts.com.
Yaël, Y-A-E, tréma L, enfin là du coup il n'y a pas de tréma j'imagine dans l'adresse, Le chant des arbres.com. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup hein, pour tout ça. Merci pour ton travail. Et puis, bonne naissance sacrée alors dans le Luberon.
Oui, merci.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet qui s'intitule auservicesduvivant.info. Et dans la rubrique Le féminin d'abord, il y a tout un dossier dans lequel j'ai traité du sujet de l'accouchement à domicile et dans lequel vous aurez les trois conditions indispensables pour un accouchement naturel et pour qu'il se passe bien, selon le grand obstétricien Michel Audan, un des pionniers de la naissance respectée. C'est sur auserviceduvivant.info. Et si vous souhaitez rencontrer des professionnels de la périnatalité, si vous-même vous avez un projet de grossesse ou d'accouchement et que vous souhaitez participer au Café Naissance d'UZES, le prochain a lieu le samedi 24 juin, le matin, au Café des Petites Mains à UZES. Il est conseillé de s'inscrire auprès de Marie-Lise. Je vous donne son numéro. C'est le 06 11 91 69 01. Le 24 juin prochain, le Café Naissance à UZES. À bientôt dans Les Enfants du Nouveau Monde.
My gang will get you.
Retrouvez Les Enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.